Bonjour Michaël Ruivoire, vous êtes boulanger au pain du Vercors à Autran et Audre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous êtes installé à La Jolie Colo, un tiers-lieu qui accueille plusieurs entreprises. Pourquoi ce choix ?
Bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, quand on est boulanger, s'installer, ça veut pouvoir dire, par exemple, trouver un local quelque part et puis s'installer en centre de village pour avoir une boutique et tout ça. Et nous, la réflexion, elle était vraiment très différente. On a une volonté d'avoir une activité qui est vraiment au service des gens, mais jusque dans les hameaux, un peu partout. Et donc pour ça, c'était plus à nous de nous rapprocher des gens, donc finalement de partir en livraison tous les matins, plutôt que de tenir une boutique, un magasin, où on demande aux gens de prendre éventuellement leur voiture, du coup, pour à chaque fois venir chercher leur pain. Et donc, trouver un local, c'est pas facile sur le Vercors. Il y a vraiment un marché de l'immobilier qui est quand même difficile, on va dire saturé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de demandes. Et donc, notre intérêt à nous, c'était de se regrouper, en fait, d'être dans un lieu collectif pour pouvoir, collaborer avec d'autres activités et pas être tout seul à faire notre boulangerie de façon standard. Et donc, c'est un peu comme ça que la réflexion vient. Moi, je suis toujours, dans ma vie, j'ai toujours été intéressé par le collectif, on va dire, de faire des choses avec d'autres gens. Et de ne pas faire les choses tout seul dans son coin. C'est un peu comme ça que ça démarre. Après, collectif, ça peut vouloir dire plein de choses. Et là, ici, à La Jolie Colo, ça prend forme d'une manière qui est du coup encore incarnée assez particulièrement, qui est que du coup, La Jolie Colo est extrêmement en réseau avec plein de choses du territoire. Il se trouve qu'on est en réseau avec des agriculteurs, on est en réseau avec des associations, on est même en réseau avec des institutions, enfin les mairies, la communauté de communes. Et en fait, ça, immédiatement, ça nous rapporte un plus en tant que boulanger. Nous, finalement, on se retrouve à être intégrés dans un tissu d'activité. Voilà.
Ok. Et du coup, il n'y a pas eu de problème pour l'installation avec le lieu était déjà pourvu de tous les équipements nécessaires, ou il a fallu
Alors, c'est une succession de hasards. En fait, le bâtiment appartenait à la mairie de Grenoble, initialement. En fait, il a été vendu, la mairie souhaitait le vendre. Et donc, on a fait un rachat collectif, on s'est monté en collectif pour faire le rachat. Et ça a été plein de petites étapes. Le basculement s'est fait en 2017. En fait, fin d'année 2017, on pouvait enfin acheter. Et puis là, on s'est un peu lancé dans les travaux. Ça a commencé en fait par étapes successives. Donc les travaux, c'était une partie qu'on faisait faire. Il y a un peu du gros œuvre qui a été fait par des artisans. Et puis après, sinon, tout ce qui était un peu aménagement intérieur. Moi, pour le fournil, la boulangerie, c'était vraiment. J'ai par exemple construit moi-même le four à bois. On a récupéré des briques qu'on avait d'un ancien four que j'avais fait. Et on s'est lancé là-dedans. Donc c'était une fois qu'on est là-dedans, après on est complètement intégré, pris dans le chantier, on vit le chantier, quoi. C'est...
Okay. Du coup, vous avez un peu répondu à la question, mais du coup, pourquoi avoir fait le choix de ne pas avoir de boutique ?
Alors, nous vraiment, notre pain, c'est avant tout un pain qu'on voulait bon pour la santé, donc on le fait au levain et ça fait du coup un pain qui se conserve aussi. Donc on a tous les jours un allumage du four, parce que j'ai pas précisé, mais on travaille au four à bois. Ouais. Donc on chauffe, on fait vraiment une chauffe comme dans une cheminée. Et ça, on le fait qu'une fois par jour, le matin. Pour essayer de travailler trop tôt, on ne veut pas être des travailleurs que de nuit, ça serait problématique pour la santé et pour notre vie sociale. Donc on essaye de travailler pas trop tôt, même si on commence quand même à 5 heures. Et du coup, on part en livraison, le pain sort du four, déjà, il n'est pas avant 9 heures. Donc pour une boulangerie conventionnelle, traditionnelle, qui a une boutique, l'habitude, c'est plutôt d'ouvrir à 7 heures et de proposer des baguettes et tout ça. Donc voilà, nous, on n'a pas ça. Au-delà de ça, on ne propose pas non plus de viennoiserie, pas de pâtisserie. Donc c'est assez original. On a un fonctionnement comme ça qui est un peu original. Et voilà, comme j'évoquais un peu tout à l'heure, notre intérêt, c'est de partir en livraison et d'aller approvisionner plein de petites épiceries. Comme ça, les gens gardent leurs habitudes, parce que les épiceries, c'est les épiceries de village, hein, sur Autran, Méaune, Lançon-Vercors, Villard-de-Lans. On va jusqu'à Saint-Nizier-du-Moucherotte, Angin. Donc voilà, on est dans les communes, à chaque fois qu'il y a une épicerie de village ou une biocoop, ce genre-là de magasin. Maintenant, on approvisionne aussi l'Intermarché à Villard-de-Lans. Enfin voilà. Et du coup, ça nous rend accessible. En fait, c'est nous qui allons vers là où les gens ont l'habitude de prendre de faire leurs achats.
Du coup, vous n'avez pas précisé qu'est-ce que c'est les boîtes à pain sur votre site.
Alors ouais, on a mis en place des boîtes à pain. Effectivement, hein, au-delà des boutiques, on a ça. C'est simplement des boîtes en bois. On a fait faire ça par des artisans d'ici, d'ailleurs, qui sont dans le même bâtiment que nous, ici, des menuisiers qui s'appellent Litos, donc qui ont fait des très belles boîtes. Et elles sont complètement autogérées. Alors, c'est-à-dire, à la base, les gens commandent le pain sur notre site internet. Ils peuvent aller de A à Z, hein, jusqu'à faire le paiement en ligne et tout. Ce qui fait que derrière nous, on n'a plus qu'à livrer un pain dans un petit sachet avec le nom de la personne sur une petite étiquette. Pour éviter de faire trop d'emballage, depuis, on a créé tout un système où on peut livrer les gens dans des petits sacs en tissu qui nous laissent après. Et ça fonctionne vraiment sur la confiance. Alors ça, je pense que c'est une chance qu'on a ici, dans un territoire comme le Vercors. C'est que c'est tout ouvert, en fait. La boîte, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de code, il n'y a pas de cadenas, il n'y a rien. Et contrairement à des boîtes qu'on voit maintenant beaucoup se développer, qui sont du coup, il faut obtenir un code avec le smartphone ou quoi, on ouvre une porte de façon à distance, etc. Bon, c'est des équipements qui coûtent très cher. Donc là, nous, non, on a juste une boîte en bois. Et les gens viennent chercher leur pain là-dedans. Il n'y a pas eu de vol, ça fait des années et des années. On a peut-être eu une fois un cas un peu curieux où on s'est demandé, voilà, un pain qui a disparu, mais voilà, c'est vraiment ponctuel et c'est assez beau de voir ça finalement, que c'est possible, et on en a qui sont en plein cœur de village, hein, donc des centaines de personnes passent devant et voilà, il y a un respect de ça, c'est le pain des gens et voilà, il est en libre accès, on va dire.
Ok, et du coup, est-ce que vous êtes satisfait de votre emplacement?
Ah bah oui, en fait, moi je suis pas originaire du Vercors, mais ça y est, maintenant que je suis installé là, je sens que je suis tombé amoureux de l'endroit. J'ai l'impression que je ne vais plus en repartir, là.
C'est vrai que c'est magnifique. Surtout avec la neige et tout, ça fait vraiment des décors presque fantastiques.
Ouais,
fantasy,
ouais, ouais.
Un peu imaginaire.
Et là, pour vous dire un petit détail rapidement, on est en train de faire un chantier scientifique avec l'INRAE. Ils sont en train d'essayer de comprendre si l'influence d'avoir des champs juste à côté, parce que à côté de la boulangerie, là, à quelques, on va dire, là, à 10 mètres, hein, derrière le chemin, on a un champ où toute une partie de l'année, il y a des vaches. Mmh. Et en fait, ils sont en train d'étudier l'influence potentielle de ça. Parce que quand on fait du pain au levain, on le fait. Le levain, c'est des bactéries et des levures. Et elles sont sauvages, elles sont entretenues, c'est tout un écosystème. Et ils sont en train d'étudier est-ce que les levures ne viendraient pas des champs, peut-être même de la forêt, parce qu'il y a des levures naturelles sur les arbres et tout ça. On n'a pas encore les résultats, mais il y a eu plein d'analyses là-dessus. Et ça promet d'être assez intéressant.
Bonjour, Mickaël. J'aimerais du coup vous demander, vous produisez des pains de certification en agriculture biologique. Qu'est-ce que cela implique pour vous et ce complexe d'avoir ce label, donc la mention Nature et Progrès?
Ouais, donc c'est effectivement, on a deux labels, l'agriculture biologique, le bio, quoi, et puis effectivement la mention Nature et Progrès, qui est même encore plus exigeante, c'est un autre label, on va dire, et du coup, effectivement, ça pousse très loin la réflexion. Alors, bon, travailler en bio, nous, c'était quand même à la base un peu une évidence, on voulait. En fait, on a des exigences qui vont beaucoup plus loin, mais on voulait au moins avoir ça comme base, on va dire. Donc le fait que c'est quand même assez reconnu, les gens savent à peu près de quoi on parle, même si des fois dans les détails, il y a besoin un peu d'expliquer, mais au moins, voilà, les gens voient le logo bio et ils savent qu'on n'utilise pas de produits chimiques, que tous nos achats sont donc en bio, que c'est une agriculture qui est plus respectueuse de l'environnement et puis qu'au final, du coup, comme il y a moins de pesticides, etc., dans l'aliment, c'est meilleur pour la santé.
Oui, l'aliment est plus sain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la mention nature et progrès ? Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas.
Oui, effectivement, c'est beaucoup moins connu. Alors, curieusement, c'est même plus ancien que le bio, ça existait avant. Au moment où le label bio qu'on connaît maintenant a été inventé, Nature et Progrès, on trouvait qu'il y avait quelque chose d'un peu commerçant qui se créait. Et c'était des militants associatifs très forts qui ont préféré garder l'esprit initial de la bio, comme on dit. Alors, c'est un cahier des charges. Il y en a un cahier par production. Donc, nous, on est soumis au cahier des charges de la boulangerie. Et puis, il y a une charte. Et alors, voilà, ça prend tous les aspects en compte de notre activité. Déjà, il faut absolument qu'on soit 100% en nature et progrès. On ne peut pas avoir un morceau de notre activité qui ne répondrait pas au cahier. Et ça prend en compte des éléments sociaux, par exemple. On ne peut pas être un gros industriel qui exploiterait des salariés en étant nature et progrès. Ça prend en compte les emballages, les déchets. L'énergie qu'on utilise, on n'aurait pas le droit d'avoir un four à gaz ou électrique en nature et progrès.
D'accord.
Donc voilà. Alors que ça, bon, le bio, c'est pas forcément des aspects qui regardent. C'est intéressant pour les contrôleurs, mais c'est pas des choses qui vont faire des non-conformités ou quoi.
D'accord. Donc oui, ça crée un tas de contraintes. Et j'aimerais vous poser du coup une question. Vous me direz si vous pouvez me répondre. Donc, est-ce que vous dégagez tous un salaire correct, les employés de la boulangerie
Ouais, alors on est 5 personnes en tout.
D'accord.
Tous des plein temps. Et l'important pour moi, c'était que chaque personne qui arrive chez nous, elle puisse avoir tout de suite en fait un CDI. Que potentiellement, quand on arrive chez nous, l'idée, c'est de rester, en fait, c'est d'être là sur le long terme. Et pour ça, il faut aussi que ce soit incitatif, justement, en termes de salaire. Alors, on a des plannings un peu raccourcis volontairement. On remplit les plannings qu'à 32 heures. Un plein temps, normalement, c'est plutôt 35 heures. Donc, on a des contrats de 35 heures, mais en fait, on les a moins remplis volontairement. Et on travaille que sur 4 jours dans la semaine. Donc la réponse est oui, on se sort tous un salaire, donc un plein temps. Et par contre, c'est vrai que c'est une activité qui est particulière et qui ne ressemble pas du tout à une boulangerie. D'habitude, les boulangeries conventionnelles, elles font des marges sur les sandwichs, sur la viennoiserie, des choses que nous, on ne fait pas.
Oui, effectivement. Sur votre site... Vous écrivez que le client paie le juste prix. Du coup, comment vous pourrez nous expliquer le prix qui peut paraître supérieur comparé à d'autres distributions, en fait ?
Alors, quand on travaille en bio, du coup, la matière première, elle est toujours plus chère là que quand je regarde moi le prix d'une farine conventionnelle. J'en reviens pas, je me dis nous en fait on paye une farine qui est vraiment beaucoup plus chère, jusqu'à potentiellement 2 fois plus chère qu'une farine conventionnelle. Donc du coup ça pousserait à avoir des prix vraiment très élevés, et nous du coup on fait très attention. Le pain le plus simple qu'on fait, qu'on appelle le pain bi, ça veut dire semi-complet en gros, hein. Le pain bi, on veut qu'il soit accessible, et justement on veut contrer un raisonnement qui pourrait être de se dire le bio c'est cher, et du coup on veut pouvoir prouver que non. Alors du coup quand on regarde au kilo, finalement ça fait des pains chez nous qui sont pas si chers que ça. Quand on regarde le prix au kilo en boulangerie, on est souvent surpris. D'habitude les boulangeries jouent sur le fait que les pains sont des pains de petit poids. Une baguette c'est que 250 grammes. Il y a souvent des petits pains de 300 grammes ou de 400 grammes. Mais quand on regarde, c'est toujours affiché sur les vitrines, il y a toujours les prix au kilo. Normalement, c'est légal, hein, il y a une liste avec les prix au kilo. Et au final, quand on compare, on se rend compte qu'on a des pains bio, bons pour la santé, on fait tout à la main, on n'a pas de machine de façonnage.
Oui, ouais. Le prix, en fait, on est au même prix. Par la qualité et par le produit qui est sain, en fait.
Ouais, et puis par une volonté aussi de pas avoir des pains trop chers, de garder des pains accessibles.
Oui, il y a cette volonté-là. D'accord. Donc, est-ce qu'il est complexe pour vous d'assurer toutes les livraisons dans le secteur, niveau transport, est-ce que vous remarquez des contraintes ?
Alors, comme on est en montagne, effectivement, c'est pas forcément évident d'aller livrer partout. On a fait un choix, nous, on voulait pas rouler au diesel ou quoi, donc on a un petit véhicule au gaz naturel, qui en plus est un biogaz. En fait, à Grenoble, il y a sur les stations d'épuration de la méthanisation qui est faite, et une fois que c'est filtré, il y a des tubes qui passent sous le drac, et il y a plusieurs stations autour de Grenoble. Malheureusement pas chez nous en montagne, donc il faut quand même qu'on descende plusieurs fois par semaine, on livre des magasins en bas puis on fait le plein en même temps. Et voilà, c'est pas forcément plus complexe que ça après à livrer. Nous on est organisé, on a des circuits, on fait une petite boucle tous les jours, bien rodée maintenant.
Ben, merci à vous, je vais laisser la parole à mon collègue Edan.
Êtes-vous sur des marchés, et si oui, lesquels ?
On fait un seul marché, c'est le marché de la commune, à Autran.
Ok. Vous utilisez le four à bois comme moyen de cuisson. En quoi est-ce écologique ?
Alors, le four à bois, nous, c'était donc effectivement un choix assez fort. Tout peut dépendre de quel bois on brûle. Nous, on a fini par trouver, en fait, un scieur, c'est un menuisier qui est aussi scieur à Corançon-en-Vercors, la scierie Sauvageon, qui, du coup, compresse des sortes de petites bûchettes de copeaux. C'est un peu comme les granulés de bois, mais c'est un gros format, ça fait la taille du poing. Il n'y a pas de colle ni rien, hein, c'est vraiment que compressé, c'est l'humidité naturelle et ce qui compose le bois qui fait qu'après ça se tient. Et donc on brûle ça. Alors l'avantage, c'est que à la base pour eux c'était un déchet, on va dire. C'est des petits copeaux quand ils rabotent des poutres ou quand ils coupent les troncs qui arrivent à la scierie. Et le gros avantage, c'est que ça permet du coup de brûler des bois du Vercors, parce que eux ils s'approvisionnent qu'ici en ultra local sur le Vercors. Et il se trouve que les forêts d'ici, on est en montagne, elles sont composées quasiment que de résineux. Il y a un petit peu de hêtre, et du coup, il est très convoité. Les gens le coupent pour les cheminées dans les maisons. Et sinon, c'est quasiment que des sapins, des épicéas. Et d'habitude, quand on brûle du résineux dans les cheminées, ça finit par goudronner, c'est compliqué, ça encrasse les cheminées. Mais là, du coup, sous cette forme-là, compressée, très sèche, ça fait des flammes très vives. Nous, on a de la chaleur très vive qui apparaît. On chauffe en à peine une heure et demie de temps. Hein. On chauffe tellement tous les jours que finalement, la chaleur est entretenue comme ça. Bref, ça permet du coup de chauffer avec du résineux local. Et donc là, en ça, ça a un aspect écologique très fort. Là, ça bat tout ce qu'on pourrait utiliser d'autre, que ce soit un four qui soit voilà, à gaz... Bon, il existait des fours à pétrole de moins en moins quand même, mais les fours électriques aussi. Et là, je pense que du coup, on est vraiment au top du top avec ce qu'on fait. Par contre, ce n'est pas un choix pratique du tout. C'est complexe, ça fait un peu de fumée, de la suie, on met des masques à certains moments de la journée. Voilà, c'était un choix écologique d'abord.
Ok. Pourquoi utiliser un moulin de type astrier avec des paysans meuniers ?
Alors, on a mis en place, là, petit à petit, une petite micro-filière, effectivement, sur le Vercors, pour faire un peu nous-mêmes la farine. Donc, on a monté une petite structure avec des paysans. Donc, finalement, c'est nous, avec eux, là, qui maîtrisons la chaîne, et on peut faire la farine en stockant le blé sur place et en faisant la mouture. Et alors, du coup, un moulin à meule de pierre, le gros intérêt, c'est que ça déroule le grain d'une façon qui est assez douce, sans chauffer la farine. Et au final, puisque ça conserve un petit peu tout, le germe dedans, donc c'est très riche en nutriments, ça a été assez prouvé qu'on obtient une farine très nutritive, très, très saine, très, très riche. Et là, du coup, maintenant, c'est ça qu'on utilise. Ça fait quelques mois à peine, on a démarré. Et on arrive à faire tout notre levain avec, ça fait déjà un bon tiers de notre pâte. Et on arrive même à en mettre un peu plus. Là, on va sûrement atteindre, je pense, une bonne moitié de notre pain composé que de farine faite sur le Vercors et à partir de blé produit sur le Vercors.
Ok. Quel est votre projet sur le plateau du Vercors avec des fermes bio ?
Bah, du coup, justement, c'est un petit peu autour de ça, de travailler autour du grain. Comme on est en bio, effectivement, on ne travaille qu'avec les fermes bio. On connaît pas mal de gens sympas, mais malheureusement, ils ne sont pas certifiés, donc on ne peut pas travailler avec eux. On arrive à en convaincre, ça y est, il y a des gens qui sont en conversion grâce à nous, donc ça, c'est chouette aussi. Et voilà, c'est une micro-filière. L'idée, ce n'était pas non plus que cette micro-filière, elle appartienne qu'à nous. Et donc, on prit des parts dans le moulin, les agriculteurs, des magasins bio, des particuliers, quoi, des citoyens. C'est une sorte de petite coopérative. Et donc, elle appartient à tout le monde. Et voilà, ça, c'était notre gros projet. Dans les années à venir, l'idée, c'est que bah, ça puisse se développer un peu, qu'on arrive à avoir suffisamment de blé. Pourquoi pas un jour, 100% de notre pain serait composé de cette farine, voilà.
Est-ce que le changement climatique a-t-il un impact sur votre façon de travailler ? Peut-il mettre à terme, mettre en difficulté votre activité de boulanger bio dans le Vercors ?
Alors, je pense que effectivement, tout le monde est impacté, directement ou indirectement, par le changement climatique. Et alors, ça peut prendre vraiment plein de formes différentes. Il y a, moi, une forme un peu indirecte que je vois, qui peut vraiment nous concerner directement, c'est que, qu'on le veuille ou non, on est dépendant, nous, du tourisme. Et dans le Vercors, une grosse partie du tourisme, c'est le ski. Historiquement, ça s'est vraiment basé là-dessus. Et on est dans une station, finalement, hein, la Autran-Méaudre, c'est une station de ski de fond historique très implantée. Est très réputé. Donc on va dire ça clairement, s'il n'y a plus de neige, il n'y a plus de skieurs. S'il n'y a plus de skieurs, du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous, en haute saison ? Alors après, on s'en est prémunis. Hein. On a essayé d'éviter un maximum que ça soit trop impactant pour nous. Donc un exemple, c'est qu'on incite les gens à s'abonner. Ça, c'est plutôt pour des gens, du coup, qui sont là longtemps, parce qu'un abonnement, c'est au moins 6 mois, on va dire. Hein. Donc ça concernerait moins les touristes, on va dire. Ça, on fait un avantage un peu financier aux gens pour s'abonner. On en a de plus en plus, des gens qui font ça. Et donc on a une base de gens qui sont là tout le temps, qui prennent cet abonnement-là qui fait au moins un pain par semaine. Et ça permet de lisser l'année. On a moins les gros pics saisonniers, les moments avec le tourisme et tout ça. Okay. Mais oui, sinon, effectivement, on est forcément dépendant de ça.
Ok.
Quel est votre parcours pour être arrivé quand même ici ? C'est quand même assez original.
C'est toujours rigolo, les parcours des gens, je pense. Ça, c'est aussi pareil, une succession de hasards, j'ai l'impression. Puisqu'en fait, moi, je n'étais pas boulanger de formation. Au début, j'étais forestier. Mais j'ai travaillé assez peu d'années en forêt, au final. Et bon, ben bah, voilà, c'était... Moi, à un moment, j'habitais en colocation et j'étais passionné par le pain. Donc, je faisais le pain pour moi, puis après pour mes colocs. Et puis, je pense qu'au bout des mois et des années, je commençais à faire le pain pour les voisins. Et puis, au bout d'un moment, on y prend goût, quoi. C'est satisfaisant, c'est valorisant. Donc, c'est un métier qui m'a donné envie et je me suis reconverti tout seul, on va dire. C'est-à-dire que j'ai passé un CAP de boulanger en candidat libre. C'est un mode où, en fait, on arrive le jour de l'examen, on fait ses preuves, mais on n'a pas forcément eu de formation avant. On est candidat libre, voilà. Donc, moi, j'avais pris, il existe des bouquins pour la partie théorique. Ça ne m'inquiétait pas trop, il fallait apprendre par cœur des proportions d'amidon dans le blé, etc. Bon, voilà, j'apprenais par cœur. Et puis, il y avait quand même une partie pratique, ça dure toute une journée. Pendant 7 heures, on nous donne toute une grille de produits à fabriquer, des baguettes, des pains complets, des pains au lait, des croissants. Il faut tout faire en parallèle. On a un peu de matériel qu'on ne connaît pas dans la salle d'examen. Et donc, j'étais allé faire plein de stages en amont pour essayer de me former sur tout ce matériel. Et voilà, après, avec un CAP de boulanger, on peut s'installer, du coup. C'est le diplôme obligatoire pour avoir l'appellation de boulangerie en France. Le mot boulanger et boulangerie est protégé. Il y a un décret qui interdit quelqu'un qui ne fabriquerait pas lui-même son pain de s'appeler boulangerie. C'est pour ça que quand, mettons, en ville, on voit quelque chose qui dit pain, viennoiserie, voilà, mais que nulle part sur la devanture, il y a marqué boulangerie, ça veut dire que potentiellement, il y a de grandes chances que le pain arrive d'ailleurs et soit éventuellement cuit sur place, mais en tout cas, il n'est pas fabriqué sur place. Des fois, c'est des pâtons congelés, des fois, voilà.
Ok. Et du coup, Forestier, c'est pour ça que vous êtes installé plutôt Vercors ? Pour la proximité à la nature ?
Alors ça, moi, effectivement, c'est un intérêt personnel, mais non, c'est encore un hasard, hein, le Vercors. C'est que c'est ma femme, en fait, qui est d'ici. Et on est revenu un peu sur sa terre natale de façon complètement fortuite, par amis d'amis. On a entendu parler du projet ici sur place de cette donc jolie colo, maintenant comme ça s'appelle. C'est parce que des amis à elle étaient un peu sur ce projet-là.
Très bien. Et pour finir, si le Vercors était une odeur, qu'est-ce que ça serait ?
Ah, ça, c'est une excellente question.
Un peu piège, mais...
Ah, je crois quand même que l'air frais a une odeur. Hein. Moi, je dirais ça, l'air frais. On va dire, de façon un peu générique, l'air de la montagne, là. Ouais.
Vous faites souvent des balades, ici ?
Pardon ?
Des randonnées, vous en faites souvent ?
Alors, j'aimerais vous faire plus. Hein. Le métier dans lequel je me suis lancé, le fait de tenir en parallèle... la boulangerie et puis maintenant, du coup, le moulin.
Ouais.
Il y a même une expression, du coup, pour ça. Normalement, on n'est pas censé être au four et au moulin. Donc, ça occupe beaucoup. Et du coup, les randos, c'est pas tous les jours, malheureusement.
Eh ben, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez apporté un pain, donc on va se faire une joie de le goûter.
Ouais, effectivement, j'ai amené un pain en graines. Il a été cuit ce matin, il est encore tiède. C'est donc un pain pur levain, hein, vous allez voir. Il a une mie qui se tient bien. Dedans, on met du tournesol, des flocons d'avoine, des graines de lin, du sésame. Et effectivement, on va pouvoir goûter ça.